BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans cette émission Tech & Co Business sur BFM Business. On va évidemment beaucoup parler d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Dans un instant, je reçois la société RippleTide qui est venue avec l'un de ses clients, Coesio Asset Management. Vous allez voir, ils ont fait un score financier, mais un score financier personnalisable grâce à la data, grâce à des agents. On va découvrir tout cela ensemble. On enchaînera avec Exaion. Exaion a défrayé un peu la chronique. C'est cette filiale d'EDF qui a été revendue en partie à un Américain, filiale de supercalculateurs. Et oui, qu'est-ce qui se passait en termes de souveraineté, eh bien son patron sera là pour nous expliquer tout ça et quel type de service ils offrent aux entreprises sur le calcul haute densité. Et puis, deuxième partie d'émission, la cybersécurité. Nos débriefeurs seront là et il y a beaucoup de choses à raconter entre Mythos, entre Fable 5 et puis cet étonnant ransomware automatique, cette ransomware fait par des agents. Ils sont allés jusqu'à négocier avec l'équipe IT. C'était l'agent qui négociait. On va essayer de comprendre tout ça avec nos experts. Allez, restez avec nous. On est ensemble pendant une heure sur BFM Business, Tech & Co Business. C'est parti.
Tech & Co Business, les invités.
Alors, on va parler intelligence artificielle avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Patrick Schubert, bonjour.
Bonjour.
Patrick, CEO de RippleTide, fondé en 2024 après 2 ans de R&D. Vous allez nous raconter tout ça et comment vous travaillez justement sur les processus, sur l'IA, sur une IA responsable. C'est rendre les agents d'IA d'entreprise un peu plus responsables. Enfin, on va découvrir tout ça avec vous. Et justement, pour illustrer tout ça, merci d'être là avec nous. Damien Ferrazzi, bonjour.
Bonjour.
Damien, vous êtes directeur général de Coesio Asset Management. Vous gérez aujourd'hui 140 000 clients, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et puis c'est 5 000 personnes chez Coesio. Et on va voir quels étaient vos besoins. Juste un premier mot, Patrick, RippleTide, 2 ans de R&D, c'était quoi le besoin du marché? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette entreprise? Et surtout, qu'il fallait travailler sur ses agents.
Oui, l'objectif pour RippleTide, c'est de permettre aux agents de prendre les bonnes décisions. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, on est confronté à une IA qui peut se retrouver à inventer des faits ou pas forcément être fiable dans ses réponses. Dans le monde de l'entreprise, on s'est dit que c'était quelque chose qui ne serait pas acceptable. Et donc, après 2 ans de R&D, on a ajouté une technologie qui permet justement, dans le cadre déploiement entreprise, de rendre les agents fiables et qu'ils puissent prendre des décisions qui correspondent aux enjeux business.
Et comment vous allez mesurer justement cet indice de confiance de ces agents?
Alors, on mesure de deux manières. Il y a une première façon qui est assez simple, qui est si on est capable d'évaluer le retour business. Si vous prenez un cas de support client, par exemple, si le ticket est résolu ou il n'est pas résolu. Donc là, on va être capable de l'évaluer. Et donc, on va voir est-ce que l'agent respecte ces règles-là. Après, au niveau de règles métiers ou de quand l'agent va formaliser des faits, on va être capable d'évaluer est-ce que ces faits existent dans une documentation qui est la documentation de l'entreprise.
D'accord. Donc c'est là où vous justifiez qu'il n'y a pas d'hallucination et voilà. C'est
exactement.
Ça tombe bien.
Si on le schématise, RippleTide en fait modélise le savoir-faire de l'entreprise et quand l'agent prend une décision, on va regarder la décision à prendre au regard de ce référentiel de l'entreprise pour être certain qu'il soit valide ou pas.
Et alors, on a de la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Damien Ferrazzi, donc directeur général de Coesio Asset Management. Alors, racontez-nous quel était votre besoin, parce qu'évidemment, j'imagine que vous êtes plongé avec toutes les data que vous gérez, vous êtes plongé dans l'IA et encore plus avec cette IA générative et maintenant cette IA agentique. Quels étaient vos besoins et comment s'est fait le lien avec RippleTide?
Bonjour, merci de nous laisser présenter notre belle entreprise. Le cas est plutôt simple. Nous sommes fournisseurs de l'ensemble des métiers du numérique, de TPE et de PME. Et donc, nous distribuons de l'informatique, de la cybersécurité, des télécoms, des solutions de gestion, des solutions de GED, audiovisuelles et des systèmes d'impression. Et tous les jours, les besoins de nos clients sont plutôt simples. Ils veulent qu'on les accompagne dans leur transformation digitale et ils veulent qu'on les fournisse en biens d'équipement sans consommer leur trésorerie.
Oui.
C'est là que la magie du financement opère. Et que mon métier consiste à leur trouver des solutions de financement pour nourrir ce besoin. Et donc, j'ai un double enjeu qui consiste à dire, je dois trouver des solutions et maîtriser mon risque.
Alors, surtout, ça doit être compliqué. Là, je fais juste un petit pas de côté. Mais aujourd'hui, avec l'IA qui arrive, auparavant, on pouvait à peu près gérer son budget. C'est à 3 ans, 5 ans, on sait où on va. Là, aujourd'hui, on se dit, je vais peut-être être obligé de changer un peu, de braquer dans les 2 ans à venir.
Le financement fait encore plus sens puisque on veut s'équiper avec les solutions du moment, sans pour autant investir, mais plutôt financer et donc louer pour maîtriser son budget. Et c'est là que le financement encore aide nos chers clients. Et finalement, historiquement, on était aussi limité en termes d'accompagnement de financement puisque nous consommions ce qu'on appelle un score, une étude de financement classique, externalisée, qui était prise auprès d'établissements financiers. Et avec la rencontre effectuée...
Vous avez dit, on va faire notre propre score.
Exactement.
C'est ça l'idée ?
On s'est dit, via Patrick, via Rippletide, ce serait quand même trop bien de trouver une IA qui nous aide à construire un score. Un score qui soit plutôt adapté aux TPE-PME, qui soit enrichi de données qui sont propres aux TPE-PME et qui soit encore une fois augmenté des datas propres à Coesio, donc pour mieux comprendre les besoins clients.
Et est-ce que ça veut dire, parce que souvent ce qu'on entend aujourd'hui, alors les gens non satisfaits disent « oui, l'IA n'a pas répondu à mes objectifs » et ceux qui disent « pourquoi ça n'a pas répondu ?» disent « voilà, il faut une qualité de données, ça j'imagine que vous l'avez, et surtout il faut changer les process ». On se dit, il ne faut pas juste appliquer l'IA sur des choses un peu existantes. Et là, est-ce que vous, du coup, il y a des processus qui ont été changés au sein de Coesio Asset Management ?
Pour le coup, on n'a pas eu de grands enjeux en termes de changement de process, puisque nous avons simplement changé l'agent de scoring d'origine avec un agent de score moderne qui, lui, nous donne accès à de meilleures données, qui nous permet de mieux arbitrer.
Quelque part, vous l'avez un peu plus personnalisé, quoi.
Il est complètement personnalisé, il intègre toutes les données nécessaires à mieux décider et mieux accompagner nos clients in fine.
Et du coup, ça s'est décidé avec les équipes qui ont un peu défini un peu le scénario vers lequel devait aller ce
exactement. On a fourni les données à Patrick qui lui ont permis de mieux sentir les besoins, de mieux sentir les décisions. Donc c'est vraiment la dualité entre la technique de leur côté et nous les logiques métiers qu'on n'arrivait pas à interpréter à l'époque.
Alors comment parce que quand j'ai décrit très rapidement ce que faisait Rippletide, rend les agents IA d'entreprise responsables. Comment justement on fait ce lien aussi avec l'ADN un peu de Rippletide ?
Le point, c'est la décision. Ouais. C'est-à-dire qu'on le voit sur le scoring, l'objectif, c'est comment on prend pour Coesio une décision de scoring qui soit la meilleure décision pour le client. Et ce que je trouve très intéressant avec cette offre-là, c'est que c'est un nouveau service et la capacité pour Coesio d'offrir des nouveaux services en évaluant le scoring d'une meilleure façon, en ajoutant plus de données.
Avec des données qui restent celles de...
Alors, il y a des données de Coesio, aussi des données tiers, c'est-à-dire d'être capable d'enrichir et aussi de pouvoir d'ultra-personnaliser, c'est-à-dire que le scoring, il va être vraiment fait pour cette PME à cet endroit, pour ce financement-là.
D'accord.
Et ça fait toute la différence pour l'évaluation aussi. L'autre point sur le côté responsable, pour répondre à votre question, c'est... La technologie de Rippletide est explicable. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'expliquer chaque décision. Et pour le crédit et le scoring, la conformité est un élément important.
Parce que c'est ce que j'allais dire. L'idée, bon, c'est bien d'avoir un bon indicateur, mais on est dans un univers où il faut quand même être capable d'expliquer. Hein, c'est toujours ce que l'on dit aujourd'hui. L'effet boîte noire, dans certains cas, c'est bien, ça va vite et tant mieux. Mais quand on est dans votre univers, il faut savoir dire pourquoi il y aura un refus, pourquoi il y aura telle décision qui sera associée à tel indicateur.
C'est exactement ça. Et c'est là où on s'est bien trouvé aussi dans la collaboration, puisque c'est totalement documenté, hiérarchisé. Et finalement... quand on passe de la soumission à l'accord, on voit le chemin entre les deux. Et quelque part, on voit ce qui a favorisé ou qui a fait infléchir l'accord de financement. Et nous, on peut pas se tromper parce qu'on gère 30 000 opérations par année. Donc, on peut pas lancer la machine dans la nature et se retourner un an plus tard pour se dire « mince, j'ai pas assez documenté ». Donc, c'est clairement le cas.
Et Damien Ferrandi, on parlait tout à l'heure avec Coesio Asset Management de ce côté personnalisation par rapport à vos clients. Ça veut dire que par rapport à... tel profil de client, qu'il soit une PME, une grosse PME, une petite PME, et qu'il soit dans le domaine du retail, enfin dans n'importe quel domaine, vous allez pouvoir ensuite ajuster un peu ces indicateurs.
C'est exactement ça.
C'est ça l'idée.
Si on cherche un petit peu la différence avec un score classique, normalement on consomme un score qui vient d'en haut, des grosses boîtes, des grandes entreprises, avec une donnée financière classique et analysée de façon très très classique. Nous, on maîtrise ce que l'on vend, c'est déjà intéressant. Ouais. On maîtrise pas le client, mais on connaît bien notre client parce qu'il est vraiment TPE, PME. Et à l'appui de visites techniques, de visites commerciales, de données textuelles, de données environnementales et financières, on a plus d'éléments pour apprécier nos relations qu'un score classique nous aurait pas vraiment
donné. Quand on dit score classique, c'est un score financier.
C'est
juste le score financier.
Exactement.
Aujourd'hui, on peut ajouter des éléments, je sais pas si tu veux...
Je t'ai un peu embêté sur des avis Google Street View, des avis Google.
Ah oui, c'est ça quand on appelait les données un peu extérieures, voilà, c'est
d'aller chercher des données qui sont enrichies et accessibles aujourd'hui pour justement améliorer. Et si on regardait juste financièrement sur des PME qui peuvent parfois être en phase de décollage ou qui ont eu un petit trou d'air.
Ça va être quoi? Un exemple très concret, voilà, sans forcément citer l'entreprise, mais pour une, Damien.
Un exemple concret de score?
Ouais.
Ah ben, un exemple concret de score, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est forcément les éléments financiers, parce qu'il pourrait y avoir une phase no-go assez immédiate. Mais une fois qu'on n'est pas sur le classique no-go, après, j'aime bien aller voir le Google Street View, la devanture de l'entreprise. J'aime bien aller voir les avis Google ou autres avis. J'aime bien aller voir l'ancienneté du dirigeant, l'ancienneté D'accord. de l'entreprise. J'aime aller voir s'il a d'autres entreprises. Enfin, j'arrive à aussi aller chercher les informations de dernier passage technicien ou de dernier passage commercial.
Presque les avis LinkedIn des gens, souvent.
Ouais, tout m'intéresse parce que j'ai des signaux faibles ou forts.
Ouais.
Et le score traditionnel, purement financier,
n'illustre pas si on voit c'est vrai qu'on apprend beaucoup souvent avec les petits commentaires LinkedIn là, on va dire voilà j'ai sur tel projet ça s'est très bien passé ou ça s'est allongé. Ah. Donc c'est ça, vous allez chercher.
Et comme j'en ai 30 000 à faire, ça m'amuse ouais. d'en faire quelques-uns à la main, mais j'ai besoin de le faire de façon système.
Le point c'est ça, c'est la personnalisation à l'échelle.
Ouais.
Et donc c'est là où
on pourrait le faire, mais ça prendrait
voilà, et puis après on peut pas le et il faut que chaque score, chaque avis soit traité de façon mm-hmm. certaine et reproductible. Si on devait donner un score, 10, et que finalement c'est la même entreprise, et qu'on repasse l'agent et qu'il sait le coup d'après, il va donner. Pourquoi ouais. C'est pas acceptable. Et ça, c'est aussi ce qu'on apporte. C'est si ça doit être 10 fois de la même manière, ça sera 10 fois de la même manière.
D'accord. Et c'est là où justement vous jugez la pertinence de cet indicateur. Parce que je me dis, vous avez fait des tests et des
Exactement.
Tests et des tests. Parce que et il ne s'agit pas d'aller revérifier avec l'œil humain, même si l'œil humain reste toujours.
Alors l'humain, il est censé être aidé par ce score pour arbitrer et décider. Et c'est une problématique qui est intéressante puisque finalement, on a beau être nous face à une solution de décision pour 30 000 scoring annuels, 30 000 opérations annuelles. Mais finalement, je fais quoi? J'ai besoin d'avoir le maximum d'informations pour prendre une décision. C'est le quotidien de mes clients.
Mmh.
Et mes clients, aujourd'hui, ils ont un quotidien de est-ce que je dois travailler avec cette nouvelle relation, qu'elle soit fournisseur ou cliente? Et finalement, ce score, non seulement il va nous servir, mais ce score, on va aussi le proposer en tant que service à nos clients finaux pour qu'eux-mêmes, ils s'en servent au quotidien pour arbitrer. Et ça, c'est dans une plateforme kiosque qui est une plateforme multiservice qu'on lance là tout prochainement.
Prochaine étape pour RippleTide ?
Prochaine étape pour RippleTide, c'est de développer pour les industries régulées son offre, puisque là, on l'a commencé avec l'industrie crédit. On le voit aussi avec les services de santé, où on a des besoins d'une IA qui prend des décisions explicables et répétables au fur et à mesure du temps.
Ben, ce sera l'occasion de venir nous en reparler.
Avec plaisir. Même.
Patrick Joubert, merci d'avoir été avec nous, CEO de RippleTide. Donc voilà, pour gagner justement en confiance dans l'usage des IA et dans l'analyse de données. Et merci Damien Ferrazzi d'être venu témoigner, directeur général de Coesio Asset Management. Allez, on marque une courte pause, on va rester dans l'univers de l'IA. On va aller dans le calcul haute performance tout de suite avec notre invité suivant.
Tech & Co Business, l'invité.
Promis, on va vous parler d'intelligence artificielle, de supercalculateur et de souveraineté aussi, parce que vous allez comprendre avec notre invité, Fatih Balili, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG d'Exaion, donc spécialisé dans le calcul de performance. Alors, Exaion, c'est né en 2020 au sein d'EDF. Et le but, c'était de donner une seconde vie industrielle aux grands supercalculateurs, entre guillemets, déclassés, mais qui continuent évidemment à bien fonctionner. Aujourd'hui, vous êtes 110, enfin, vous êtes en train de grimper, mais plus de 110 collaborateurs. Le but, c'est de doubler taille d'ici à fin 2026, et d'avoir évidemment plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, et de surfer évidemment sur cette vague de l'IA. Première question, expliquez-nous ce que vous proposez en type de service voilà, aux entreprises qui viennent vous voir.
Aujourd'hui, le service d'Exaion, c'est de fournir un service de cloud privé de confiance aux grandes entreprises qui veulent en fait stocker, inférer, calculer sur des données hypersensibles d'entreprise et qui ne peuvent pas sortir en dehors
territoire
de ce qu'on appelle l'on-prem, c'est-à-dire leurs équipes internes. Parce que donner ce qu'on appelle ça un peu cœur de business, données privées, qu'on peut pas les mettre dans un cloud privé ou dans un cloud entre le on-prem et le privé public, les clouds souverains.
D'accord.
C'est des données qui doivent à tout prix rester en fait dans Périmètre d'entreprise.
Et j'imagine que là, depuis plusieurs mois, beaucoup d'entreprises viennent vous voir parce qu'on a senti que cette petite musique de la souveraineté, qui était un peu, voilà, on la mettait un peu de côté, on l'écoutait d'une petite oreille un peu peu attentive. Aujourd'hui, c'est pour beaucoup d'entreprises, c'est devenu un critère clé, et encore plus quand on entend, enfin, tout ce qui se passe autour de l'IA en ce moment.
C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut séparer le cloud en trois activités. Il y a le cloud public, là où on gère nos mails, les Teams, etc. On va avoir ce qu'on appelle le cloud souverain, où en fait vous allez être garanti que vos données ne vont jamais être aspirées par un État étranger. Et puis nous, Exaion, on se positionne sur ce qu'on appelle le cloud privé, c'est-à-dire la résilience. C'est-à-dire qu'on va, nous, dans les scénarios où, si demain on est en conflit ouvert avec une puissance étrangère, on doit être capable de garantir à nos clients que les data centers et leurs données vont continuer à tourner, même si on essaie de leur couper l'accès à Internet, à la fibre, à certains modèles d'IA.
D'accord.
Nous, c'est ça. C'est là-dessus qu'on nous sommes positionnés. Sur la résilience, c'est...
Et vos clients, ils viennent, ils externalisent chez vous le calcul, puisque le but, c'était quand même des supercalculateurs au départ. Ouais. Le but, c'est d'externaliser leurs calculs intensifs. Hein, c'est ça l'idée.
C'est ça. Alors... j'utiliserai pas le mot externaliser, mais c'est nous, en fait, nous leur rapportons des data centers miniaturisés. D'accord. Chez eux.
Ah, chez eux, ok.
Et en fait, ils internalisent et ils continuent de garder chez eux, ou alors ils rapatrient de l'extérieur certaines données qu'ils avaient expatriées pour continuer à faire tourner leurs données sur des mini data centers qu'on leur livre, dont ils sont propriétaires, et dont toutes les couches IaaS et PaaS sont développées sur de l'open source.
Et alors, Exaion était au cœur un peu d'une polémique, hein, puisque filiale EDF, avec une partie qui a été revendue, alors qu'à l'heure actuelle, on parle du calcul, des centres de calcul IA, voilà, il faut être souverain dans ce domaine-là. Et il y a une partie qui a été revendue, alors plus de 60% aujourd'hui, à un Américain qui s'appelle Mara, alors qui était mineur de Bitcoin, mais on l'a dit hors micro avant que nous démarrions l'émission, ils sont en train de se tourner aussi vers les centres de calcul, ils monétisent l'électron, quoi. Donc ils rentrent dans cette économie des tokens aussi. Pourquoi ça s'est fait Alors EDF est encore présent, puis il y a Xavier Niel encore qui est encore là, et l'entreprise, on le rappelle, est toujours bien en France. Hein, tous les fondateurs sont en France.
Les fondateurs, nous sommes toujours là. 90% des effectifs sont en France, notamment à Paris. On a une partie de nos équipes qui sont au Québec, au Canada. La R&D à 100% est développée en France. Et toutes les solutions qui sont proposées à nos clients ont été développées par les équipes d'Exaion en France. Donc il n'y a pas d'input de technologie qui vient de Mara ou des savoir-faire d'Exaion qui repartent aux États-Unis.
Mais alors pourquoi ne pas être resté au sein de... Ou alors pourquoi ne pas avoir cherché un acteur plus européen ou voire français?
En plusieurs choses. C'est que ce n'est pas le cœur de métier du groupe EDF que de développer une activité cloud en interne.
Oui.
On le voit aujourd'hui, le groupe est en train de se recentrer sur les centrales nucléaires. Et sur les activités qui sont en France et en Europe,
plusieurs cheveux.
Ils peuvent pas financer à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros une initiative dans le secteur du cloud. Donc en fait, le groupe EDF, comme ça a été prévu d'ailleurs à la création d'Exaion, on savait que la première phase 2020-2025 aurait été financée par le groupe EDF, mais on savait qu'entre 2026 et 2030, nous aurions des besoins de financement beaucoup plus conséquents et qu'il était déjà envisagé d'ouvrir le capital.
D'accord.
Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on est passé par une banque d'investissement et puis on a vu les différentes entreprises qui étaient à même d'investir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va lever plus de 100 millions d'euros, c'est compliqué de les trouver en Europe.
Oui. Et donc, alors aujourd'hui, donc le but, c'est de devenir un acteur, si ce n'est européen, au moins mondial, avec Exaion.
Exactement. L'avantage qu'on a en fait aujourd'hui avec ce système de cloud privé, c'est qu'on l'a démarré sur le continent européen, qui est très orienté aujourd'hui sur la souveraineté des données et qui est en train, avec l'épisode de Groenland et l'épisode avec Anthropique il y a quelques jours,
le kill switch
sont en train de prendre conscience qu'il faut aller jusqu'à la résilience et que la souveraineté ne suffit plus. Et dans cette logique de résilience, en fait, nous, Exaion, c'est les solutions qu'on a développées en interne pour le groupe EDF dès 2020. On a 5-6 ans d'avance sur le marché. Et beaucoup d'entreprises, et pas que européennes, même aux États-Unis aujourd'hui, les gens, les grandes entreprises veulent avoir leur cloud privé.
Ah oui.
Ils veulent faire tourner des plateformes de LLM, multi-LLM, basées sur des codes open source.
On voit des retours en arrière, on voit des gens qui étaient entièrement cloud public, enfin cloud externalisé, et puis qui maintenant sont en train de rapatrier
Exactement.
Des choses.
Il y a un très grand marché pour le cloud privé, notamment aussi aux États-Unis, au Moyen-Orient, dans le reste de l'Europe, au Canada. Et Exaion a une certaine avance et il faut en profiter. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Il faut surtout pas.
Et ça aujourd'hui, est-ce que des clients ont un peu. Je rappelle, dans vous avez des clients historiques hein, qui sont des grandes banques, etc. Est-ce que eux, ils ont craint un moment, en plus de passer aux mains d'un Américain, enfin en partie, de perdre un peu de cette souveraineté. Alors, nous avions rassuré quand même, j'imagine.
Nous les avions tous contactés avant le deal pour leur expliquer de quoi il s'agissait et que c'était pas. Une prise totale du capital d'Exaion, c'est une prise de participation partielle. Et comme Mara n'est pas un acteur du cloud et de l'IA, en fait, c'est un acteur qui nous a apporté les moyens à nous d'accélérer très vite, mais c'est pas un acteur qui se comporte un peu comme un Big Brother.
D'accord.
Tu verras ce qui se passe. Et comme eux-mêmes ne sont pas cloud providers aux États-Unis, du coup, ils ne sont pas sur le coup du Cloud Act aux États-Unis. Et du coup, nous ne sommes pas sous le clou du Cloud Act aux États-Unis, enfin en France vers les États-Unis, parce que notre actionnaire ne l'est pas non plus.
Ça va être quoi le profil alors le profil des entreprises peut-être pas, mais le profil des projets que l'on va vous confier aujourd'hui, qu'on va confier à Exaion.
Alors si on prend ce qui accélère le plus vite en ce moment, ça va être des grands industriels qui nous disent écoutez, nous avons besoin d'avoir accès à une plateforme multi-LLM dans l'IA. Parce que donc on a commencé par traduire certains documents, on a demandé à l'IA de nous aider sur des présentations PowerPoint, mais aujourd'hui on a besoin d'optimiser un cas d'usage réel d'entreprise où on sait qu'on peut aller chercher 20, 30, 40% d'optimisation. Mais comme ces données sont très sensibles, on ne se sent pas d'aller les mettre chez ChatGPT ou chez Anthropic. On a besoin d'avoir un cloud privé hermétique, complètement hermétique par rapport au monde extérieur, sur lequel nous on peut venir lutter contre trois choses. Un, le shadow IT, éviter que nos données sortent. Deux, réduire le coût des tokens en utilisant des modèles open source. Et trois, garantir que le périmètre sur lequel on infère nos données soit ultra sécurisé. Mm-hmm. Et c'est ça qu'Exaion propose aujourd'hui à ses clients.
D'accord. Et aujourd'hui, donc dans le développement, c'est ça, c'est acquérir de nouveaux clients sur l'Europe et puis sur au niveau mondial par la suite.
Exactement.
Bien, merci d'être venu parler de tout ça, Balili, PDG d'Exaion. Voilà, puis d'avoir balayé un peu cette polémique. Voilà, on a bien compris que voilà, vous avez besoin de financement pour grossir et puis que voilà, toutes les garanties de souveraineté sont aussi respectées. Merci d'être venu parler de tout ça sur notre plateau BFM Business. On marque une courte pause. On se retrouve. Tiens, un sujet qui devrait vous intéresser. On va parler cybersécurité avec nos invités. Suivant, notre débrief de l'actu cyber. Et là, il y a beaucoup de choses. On parlait du kill switch il y a un instant, mais il y a encore beaucoup de choses. On a vu un ransomware agentiel qui a fait quelques dégâts. On va en reparler avec nos débriefeurs. C'est tout de suite sur BFM Business.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
On vous parle d'un été très chaud avec la météo, mais on peut vous dire qu'il s'annonce aussi très chaud. Il l'est déjà dans le monde cyber avec, on va revenir sur tous ces épisodes, Mythos, Fable 5, tiens, l'apparition du premier ransomware agentiel. On va en parler avec nos invités, nos experts et voir comment les entreprises doivent anticiper un peu la tempête cyber qui souffle quotidiennement sur nos entreprises. Avec Pascal Le Digueul. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur général France de WatchGuard. Benoît Grunemwald, expert en cyber chez IZ France. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Et Jérôme Billois, associé en cybersécurité chez Wavestone. Bonjour.
Bonjour.
Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver Jérôme en replay. On avait fait un petit point sur le baromètre des startups, hein, parce que là aussi, il y a pas mal d'innovations dans ce domaine. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu forcément, l'apparition du premier ransomware agentiel, des ransomware IA qui pourraient devenir indétectables par les outils traditionnels. Alors, j'ai vu ça dans la presse US. Des chercheurs en cyber ont identifié la première attaque de ransomware utilisant un agent IA pour négocier avec les victimes, adapter ses demandes de rançon et contourner les défenses. L'agent est basé sur un modèle LLM. Il a déjà réussi à extorquer 2,3 millions d'euros à une entreprise européenne en allant jusqu'à simuler des conversations humaines avec des équipes IT. Alors évidemment, tout le monde enquête de tout ça. Qu'est-ce qui commence, Pascal ?
Alors, déjà, il faut corriger 2-3 petits trucs indétectables. Ce que j'ai vu, techniques et les procédures utilisées par l'agent, c'est des techniques et procédures qui sont connues. Il n'a pas été recherché.
D'ailleurs, si on le sait, c'est que c'est pas totalement indétectable.
Si on a détecté quelque chose d'indétectable, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ça reste dans l'usage de techniques, même d'une vulnérabilité pour rentrer, qui était connue depuis un an et qui n'a pas été patchée.
D'accord.
On reste sur quand même de la bonne vieille faille
côté
victime. Par contre, effectivement, côté attaquant, on est sur de l'agent qui a déroulé l'attaque de A à Z, qui s'est pris un peu les pieds dans le tapis d'ailleurs à la fin, puisque a généré une clé sans l'envoyer à l'attaquant. Donc,
il n'y avait plus d'humain dans la boucle.
Voilà, elle a oublié qu'il y avait un humain dans la boucle, ce qui est symboliquement assez intéressant. Mm-hmm. Mais effectivement, ça déroule tout de A à Z, et là, on rentre dans une ère qui, sans vouloir faire peur, parce que la cyber parle à peur, mm-hmm. mais il faut être réaliste, on est dans une ère où avant, on faisait du ransomware avec des affiliés qui déroulaient à la main. Alors certes, on avait déjà eu une baisse de niveau de compétences, parce que les gangs de ransomware faisaient les guides, il n'y avait plus qu'à les dérouler, etc. Mais là, il n'y a même plus d'humains, en fait, à dérouler la chose. Donc, généralise, et ça va se généraliser. Ouais, on rentre effectivement dans une ère de cyber qui est...
Mais à l'origine, c'est qui, quand même? Il y a un humain à l'origine de l'agent, ou l'a juste dit, cherche-moi à attaquer, et vraiment, c'est l'agent qui s'est...
Alors, on ne connaît pas tout. On ne sait pas le LLM qui a été utilisé pour attaquer, etc. Donc, pour l'instant, c'est... sauf si mes confrères ont l'info, mais à mon avis, on n'a pas encore l'info. Donc, c'est... Il y a probablement un cybergang derrière, ou des gens qui testent des choses, peut-être, mais vu qu'ils ont fait des dégâts, je ne pense pas que ce soit juste des tests, puisqu'on parle quand même d'une plateforme qui a été chiffrée complètement.
Ouais.
En revanche, ce qu'on en sait, c'est les implications derrière, notamment sur ma partie sur laquelle je reviens souvent, qui est la PME. La chance qu'a la PME aujourd'hui, c'est que les attaques sont opportunistes, et que quand un pirate tombe un peu sur un os...
Il n'insiste pas,
il va voir ailleurs. Là, on est sur un agent qui insiste. Il se trompe, il réessaye jusqu'à réussir.
Oui, il s'en fiche, lui.
Et ça change tout.
Il est là 24h/24.
Ça change toute la donne. Il ne s'arrêtera pas.
D'accord.
Et du coup, il va falloir vraiment le bloquer, réellement. Pas juste espérer qu'il passe à côté.
Benoît.
Oui, alors moi, je vois qu'on passe d'une attaque statique à une attaque dynamique, ce qui fait que effectivement cet agent, il utilise des failles connues, il ne révolutionne pas.
Oui, c'est ça. Il faut bien. On reparlera de Mythos, Fableson dans un instant. Mais là, c'est ça. C'est ce que disait Pascal. Il y a des failles qui n'étaient pas résolues.
Et il y a un an, on voyait déjà les premiers rançongiciels pilotés par l'intelligence artificielle, mais ils ne faisaient pas toute la phase. Ouais. Si on reprend les 13
discussions,
étapes,
ils vont savoir ce qu'à discuter avec ce qui paye titre.
Exactement. Si on reprend les 13 étapes de l'attaque telle que Mitre l'a défini, là il a enchaîné toutes les étapes. Là où avant l'IA intervenait surtout sur la phase opérationnelle du rançongiciel, pas l'intégralité. Donc ça c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont maximisé eux-mêmes leur automatisation opérationnelle, entre guillemets leur résilience. Moi ça m'amène à un même constat, qui est un constat que ça va certainement toucher plus d'entités que ça ne pouvait en toucher auparavant. Et ça me rappelle aussi, et notamment en ayant exploité une faille connue, la gestion des vulnérabilités, la gestion des accès, les bonnes pratiques. Finalement, s'il n'y avait pas eu cette faille, il aurait certainement trouvé autre chose, mais il aurait refait face à un niveau plus complexe qui fait qu'il serait peut-être passé à une cible supérieure.
Ouais.
Donc, revenons aux bases, et puis moi ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on parle beaucoup de formation des utilisateurs, c'est évident que c'est nécessaire, mais ce que l'on voit, c'est que ça a commencé à 19h34 et 24 secondes, il a enchaîné 5 étapes, et à 19h35 et 18 secondes, il était rentré.
Ouais. En moins d'une minute. Mais ça veut dire qu'on ne va pas réduire notre surface numérique
Non, par contre, il faut la durcir.
Ouais.
Et c'est vraiment ce que disait Benoît là. Je pense que la vraie nouvelle de cette affaire, c'est de voir le cheminement essai-erreur.
Oui, c'est ça.
Voilà, je regardais les étapes techniques. À un moment, il est bloqué dans son attaque et en 30 secondes, il pivote, il trouve un autre canal. Chose qui, d'habitude, aurait pris des dizaines de minutes, voire parfois des heures, à un groupe motivé et aurait peut-être fait arrêter le groupe parce que justement, c'est trop long, c'est trop difficile. Donc, en fait, on va être face à des attaques qui vont être certainement plus larges, plus rapides et plus déterminées. Donc ça c'est un vrai risque, un vrai facteur de risque. Ce qu'il va falloir voir, c'est quand même quel est le ROI pour les cybercriminels. Malheureusement, j'aurais tendance à dire qu'il va quand même pas être mauvais.
Oui, parce que si c'est un agent pour les tourner, tant qu'il se cogne contre le mur, il continue à...
Voilà, alors... Vous savez comme moi que ça coûte cher en token.
Oui, quand même.
Et donc,
il faut
quand même voir. Parce que si l'attaque a coûté 50 000 dollars de token et a rapporté 30 000 dollars de rançon, on n'y sera pas. Mais malheureusement, je pense que le gain sera plus grand que le coût. Et donc, on voit vraiment que les cybercriminels, ils arrivent à faire cette transformation numérique. Ils sont souvent très en avant dans la transformation numérique pour utiliser les nouveaux outils. L'époque des plateformes avec les ransomware, là maintenant l'époque des LLM avec l'IA. Et donc, c'est une vraie crainte. Alors, est-ce qu'il faut tout arrêter? Non. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est passer la défense à l'heure de l'IA. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises aujourd'hui, elles aient des IA qui automatiquement vérifient tous les systèmes et fassent comme l'IA d'attaque. et qui finalement essaye.
Parce qu'on aurait pu avoir un agent, on pourrait développer un agent qui repère qu'il y a un agent
là,
qui est en train de...
Voir. Le point clé sur ces attaques-là, ça n'est pas discret. En fait, toutes les attaques d'IA aujourd'hui, nous, tout ce qu'on a pu tester en interne dans nos labs, etc., c'est très direct, très ça marche ça, ça marche pas, j'essaye le suivant, le suivant, le suivant. Donc c'est des attaques qui sont très verbeuses. Et donc si on met quelque part des mécanismes de détection,
on va commencer à repérer des scénarios et tout ça. Oui. Benoît.
C'est déjà le cas. Repérer grâce à des EDR, grâce à des solutions qui sont sur les réseaux, l'équivalent d'un EDR, mais pour le réseau, on, aujourd'hui, ces signaux forts, on les repère. Et c'est d'ailleurs pour ça que les plateformes de rançongiciel proposent des outils qu'on appelle EDR Killer. Alors, c'est là où on voit que nous, pour nous défendre, on doit gérer les vulnérabilités, ce qui aurait pu permettre ici d'éviter de rentrer. Imaginons qu'ils rentrent. Pour ça, ils vont utiliser des EDR killers, parce que l'EDR sert et leur opération
de détection et tout ça,
est bruyante. Ouais. Donc, il faut qu'ils minimisent leur empreinte.
Qu'ils le rendent aveugle, quoi. Ils rendent l'EDR aveugle.
Exactement. Et là, ils peuvent jouer le chiffrement. On voit aussi que, et on l'avait vu avec Promplog, Promflux, etc., il y a un an, les rançongiciels fabriqués avec l'IA ne sont pas aboutis. Donc on avait des proof of concept, là on voit qu'il a oublié d'envoyer la clé. Bon, on est encore sur un balbutiement. Par contre, s'il y a des entreprises qui cherchent encore des cas d'usage pour l'IA, le cybercrime, effectivement.
Oui, en fait, il y a deux cas d'usage qu'il faut implémenter aujourd'hui, il faut arrêter de réfléchir, c'est l'AI for vulnerability, donc avoir des IA qui vont scanner toutes les vulnérabilités et qui vont pousser fort pour les corriger, et puis de l'AI for SOC, donc de l'IA qui fait de la détection et qui va être capable de détecter ces signaux forts, remonter même si on coupe un outil, etc., et réagir aussi de plus en plus de manière automatisée, parce que toutes les entreprises de France et de Navarre, et même du monde, n'auront pas les moyens d'avoir des experts cyber 24h sur 24 pour dire « oui, je suis bien en train de t'attaquer, applique la contre-mesure ». Il va falloir qu'on passe à l'ère de l'automatisation de la réponse.
Et ça, il y a encore du boulot, Pascal.
De la même manière, même si aujourd'hui on a des outils pour détecter les TTP, etc., je pense qu'on voit tout de suite que... l'IA détectera des nouvelles techniques, détectera des nouvelles vulnérabilités. Et la seule façon à terme, pas forcément aujourd'hui, mais à terme, c'est qu'effectivement, il y a, comme tu l'as dit, une IA de défense et qui ensuite va piloter les différents outils de défense. Mm-hmm. Parce qu'il y a le DERM, il y a aussi le Firewall, il y a tous les outils qui vont servir. Les pirates commençant à utiliser toutes les couches de la reconnaissance jusqu'à l'impact du mitre, il faut une IA de défense qui maîtrise aussi toutes ces détections-là, et de manière centralisée.
Et je voyais qu'il y a des assureurs cyber qui commencent à dire on va exclure les attaques de l'IA de notre couverture, parce que sinon on va facturer ça très cher, donc on voit que ça commence à bouger.
Le modèle économique des attaques, ça rend l'attaque beaucoup moins chère à réaliser, donc il y en aura certainement beaucoup plus, et par contre le modèle de l'assurance, on sait, il a connu des hauts et des bas, il y a des années où les assureurs ont perdu de l'argent, il y a des années où ils gagnaient de l'argent. Et là, leur modèle de tarification, ils ont réussi petit à petit à l'éprouver dans un monde sans IA.
Ouais.
Et là, l'IA de l'attaquant, elle change la donne.
Alors tiens, Jérôme, garde le micro. Retour sur le feuilleton Mythos. Donc, Mythos, on s'en souvient, Anthropic qui sort sa version Mythos 5. Et puis, on se rend compte qu'elle est beaucoup trop puissante. Donc, ils disent, on va la donner qu'à des spécialistes. Ensuite, ils en sortent une version Fable 5 un peu bridée. Et puis, Mythos 5 continue sa vie. Et puis, là, le gouvernement américain dit, attendez, c'est beaucoup trop puissant, donc on va pas diffuser ça en dehors du territoire américain, mais même à l'extérieur du territoire américain, à des personnes étrangères. Il fallait donner ça qu'aux Américains. Et finalement, bon, ça a fini par se radoucir un peu, tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut tirer de ça? Alors déjà, il y a les failles, il y en a partout.
Il y a très nombreux enseignements sur cette affaire-là. Je pense que la plus majeure, la plus importante, c'est pas tant la puissance de Mythos et Fable qui ont été démontrées, il y a un vrai changement dans la capacité de ces modèles à prendre un problème, à le traiter dans la longueur et à assembler des failles de sécurité pour rentrer dans des systèmes. Voilà. Non, là, je pense que la vraie différence, elle est aussi sur notre indépendance numérique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En 2 heures, le gouvernement américain a décidé de couper l'accès, effectivement, à tous les étrangers, sauf que c'est difficile de bien filtrer qui est étranger ou pas. Et puis surtout, quand ils ont relancé, et c'est ce qui est en train de se passer aussi avec OpenAI, avec les dernières versions de ChatGPT, ils relancent, mais qu'à 20 sociétés. Et en fait, ils ont pu décider... finalement, qui devaient être les clients d'Anthropic. Et là, on ne parle même pas de menaces externes, étrangers, etc. Mm-hmm. Aux États-Unis, il n'y a que 20 sociétés qui ont eu droit à...
Oui, et comme par hasard, des Palo Alto, des CrowdStrike, des Microsoft...
Alors, on ne sait pas qui c'est.
Voilà. les grands acteurs, les grandes plateformes, voilà, classiques.
Mais donc, ça remet en cause énormément, et moi, c'est ce que je vois vraiment dans les entreprises aujourd'hui, la confiance qu'on peut avoir pour mettre de l'IA au cœur de ces processus métiers, là où la disponibilité, elle est absolument cruciale. Et donc, il faut prévoir des mécanismes de fallback, entre guillemets, d'ici, mm-hmm. il n'est plus là, ben, j'ai un autre modèle. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les modèles qui ont le vent en poupe, alors heureusement, on parle beaucoup de Mistral dans les grandes entreprises, et il y a des choses qui bougent, et je pense qu'il faut vraiment y aller mm-hmm. pour avoir des modèles européens. Mais là, depuis quelques semaines, on a énormément de demandes sur valider des modèles chinois,
ouais.
Open weight. Attention, ça ne veut pas dire open source, c'est des modèles qu'on peut avoir librement.
Même accès. Si on a vu que certains, on a vu Quine qui avait été retiré de la direction du Trésor et tout ça.
Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Ouais.
On peut l'utiliser sans coût, on peut le télécharger, on peut le faire tourner chez soi, mais on ne sait pas exactement comment le modèle a été entraîné et comment il va réagir dans certains cas. Et donc, il y a, là, depuis un mois, ce feuilleton Mythos qui était très cyber, finalement, sort un peu de la cyber et devient un vrai enjeu d'indépendance numérique mmh. pour les équipes IA.
Benoît ?
Oui, et alors sur les modèles tous, il y a des modèles obliterated, donc des modèles sur lesquels on a fait sauter les différentes protections, ce qui n'est pas encore le cas sur Fable 5 et Mythos, mais il n'y a aucune raison pour qu'on arrive à quelque chose de similaire dans les mois à venir. Donc on va rattraper et permettre à l'extérieur, entre guillemets, de rattraper le retard sur Fable 5. Donc aujourd'hui, on est quand même dans un environnement où les modèles sont extrêmement puissants. On ne sait effectivement pas forcément comment ils fonctionnent et on a vu aussi qu'ils pouvaient changer de comportement, c'est-à-dire qu'en fonction de qui pose la question, mm-hmm. je ne parle même pas des biais, on a fait un test, hein, si vous êtes un homme ou une femme, la réponse va être différente. Mais vraiment, si le modèle détecte qu'il est dans une phase de test, et peut-être une phase de test où ça pourrait le couper et où le modifier, le modèle est lui-même capable de dire « Ah bah, danger pour moi, je vais répondre différemment. Je vais peut-être pas montrer toutes mes capacités à trouver des vulnérabilités, ouais. parce que sinon, ils vont encore plus me restreindre. » Alors que moi, j'ai envie de m'étendre.
Pascal ?
Je vois le côté... cybercriminalité de ce côté-là où on peut faire le lien avec le sujet d'avant. Hein. Ouais. C'est que pour beaucoup des attaques qui aujourd'hui utilisent des LLM, c'est des LLM sur lesquels on a trouvé des failles, qu'on a jailbreakées en somme. Mais de plus en plus, il commence aussi à y avoir des dark LLM hébergés avec mm-hmm. des modèles ouverts. Et penser que, parce que... donc c'est complètement un autre sujet, mais penser que parce qu'on peut arrêter un modèle à un moment donné, ça va stopper les pirates de continuer à développer ouais, leur LLM, à les mettre à disposition, parce qu'on est déjà sur du LLM as a service, mm-hmm. pour faire ce qu'on...
Voilà. Du dark LLM as a service.
Du dark LLM as a service, pardon, ouais. l'expression exacte. Et on va pas les arrêter, ceux-là. Ouais. Personne pourra les couper, à part des opérations internationales. Ouais. Contre la cybercriminalité. Donc, on rentre vraiment dans une ère où je serais bien curieux de savoir quel expert cyber est capable de prédire dans quelle situation on sera dans quelques mois.
Eh bien, oui,
oui, alors nous, on a pris un virage précis, hein, c'est qu'on on veut notre autonomie. Tu l'évoquais, Jérôme, nous, on veut notre autonomie. On lance un investissement raisonnable de 40 millions pour avoir notre propre IA, sortir de la dépendance des big tech. Ça sera certainement pas un modèle aussi puissant, ouais, mais en même
peut-être
temps,
en ciblant certaines tâches très précises, voilà on sera
exactement, il sera hyper précis, il sera moins large, mais en même temps très efficace sur ce qu'on lui demande.
Et Jérôme, parce que juste un dernier mot là-dessus, j'entends beaucoup que c'est le problème aussi, c'est qu'on a beaucoup développé en langage C++ et que ça gère la mémoire un peu de façon les développeurs s'en souciaient pas quand ils développaient à l'époque, et c'est ça aussi qui est parce qu'on pourrait se dire mais pourquoi il y a autant de failles dans les logiciels qu'on nous vend depuis des années.
Oui, alors effectivement, historiquement, il y avait aucun mécanisme pour aider à la gestion de la mémoire, encore plus dans le temps avec l'assembleur, ensuite mm-hmm. le C++, les langages plus modernes comme le Rust par exemple, eux ont des mécanismes intégrés qui évitent aux développeurs de faire des bêtises entre mm-hmm. guillemets. Et puis le problème, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces IA, elles ont appris sur tout le code source existant.
Ouais.
Et le code source existant, il a plein de failles et on le voit tous les jours. Donc elles ont aussi appris à répliquer des mécanismes où il y a des failles. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi leur demander de vérifier le code source qu'elles produisent. Et les développeurs aujourd'hui, la bonne pratique, on leur disait avant, vérifiez votre code source. Maintenant, c'est fais un prompt où tu demandes à l'IA ou à une autre IA, même c'est encore mieux, ouais. de vérifier s'il y a déjà des failles dans le code qu'elle vient d'écrire.
Ouais, c'est intéressant.
Et c'est assez drôle de le faire. Hein. Vous pouvez le faire dans les tests. Moi, je l'ai fait plein de fois. Et l'IA trouve des failles elle-même qu'elle vient d'écrire.
Ouais. Alors, autre sujet, le démantèlement coordonné des infrastructures cybercriminelles. Je crois que c'est toi qui l'avais remonté à ce sujet-là, Benoît.
Oui, je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, il va falloir à un moment continuer à mener des opérations. Endgame public-privé de démantèlement. Mm-hmm. Endgame, on est un très bon exemple, encore un succès. On va dire que côté défense, on voit que c'est possible à grande échelle. Hein. C'est une opération qui est coordonnée, qui est mondiale. C'est une bonne coopération public-privé, chacun dans son périmètre. Et puis, côté attaque, ça nous montre à quel point les attaquants sont structurés, organisés, et que pour les démanteler, on a besoin d'opérations qui ne sont pas juste d'arrêter une personne qui habite en Charente-Maritime ou ailleurs en France. Voilà, qu'on a vraiment un spectre très large.
On parle du sujet sur France 3, sur la NTS, les titres sécurisés d'un petit jeune qui avait réussi habilement, mais sans génie, hein, c'est juste en changeant quelques chiffres. Voilà, il n'y avait pas un truc hyper structuré derrière.
C'est ça, il fallait le trouver, mais comme l'agent qu'on a évoqué tout à l'heure, le ransomware qui utilise l'IA, il ne fait pas des choses extraordinaires, même si techniquement, un ransomware piloté par un agent, les geeks se penchent dessus, ça nous intéresse. Mais les méthodes utilisées ne sont pas révolutionnaires.
Mais donc, important, cette dynamique collective de résilience.
Hein, oui, Jérôme. Et en fait, il y a eu un vrai basculement dans la manière de prendre le traitement des affaires judiciaires. Et j'étais au Forum in Cyber, là, en marge, j'ai animé une table ronde justement avec le parquet, avec les forces de police européennes, il y avait Europol, avec les forces de police françaises aussi. Et en fait, ils ont changé maintenant, depuis 2-3 ans, la manière de prendre ces dossiers-là. Avant, il y avait la plainte de chaque société touchée, qui était confiée à un service enquêteur qui enquêtait. Et au final, il y avait des dizaines de fois les mêmes plaintes, mais
c'était pas consolidé, agrégé. Ouais.
Et en fait, maintenant, ils ont changé leur fusil d'épaule en disant ce qu'on doit toucher, c'est les plateformes, c'est les groupes qui sont derrière. Comme quand on arrête un réseau de dealers de drogue, on va pas arrêter celui qui le distribue dans la rue. On va aller chercher le baron qui est derrière. Et ils le font de plus en plus en anticipation, justement, pour arriver à vraiment intercepter ces plateformes en coopération internationale et avec du succès. Parce que je pense que si on regarde les statistiques, il n'y a jamais eu autant de démantèlement d'arrestations.
C'est vrai qu'on en parle un peu moins, mais dans les revues spécialisées, on voit régulièrement
Alors, tout n'est pas fini, malheureusement. Je dirais que
c'est
comme le crime. Hein, ça fait des années que la police, elle est là, on en a encore. Mais l'enjeu, c'est de montrer qu'il n'y a plus d'impunité. C'est de montrer aussi, c'est de le faire atteindre quelque part un niveau qui, à la fin, va être socialement, économiquement acceptable.
Ouais, une pression continue sur les infrastructures malveillantes, ça, Pascal.
Oui, et puis au-delà de faire respecter le minimum du contrat social et de faire respecter la justice, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, ça a aussi un effet concret. Sur le terrain, c'est-à-dire que quand il y a un vrai takedown sur les statistiques des attaques, on le sent, on le sent réellement. Et c'est important pour redonner aussi du souffle, laisser aussi les entreprises continuer à remonter leur niveau de sécurité, etc. Si on n'avait pas ces takedowns, ça serait insupportable.
Autre sujet, je crois que c'est toujours toi, Benoît, c'est un panorama des activités d'APT. Alors c'est une lecture géopolitique un peu des menaces, c'est ça l'idée ?
Oui, l'idée c'est de voir comment ce qui se passe sur la scène internationale, à la fois des tensions, qu'elles soient des guerres ou qu'elles soient des tensions économiques, peuvent produire des réactions cyber. On l'a vu, l'idée là c'était de faire un petit bilan avant l'été et de voir comment les groupes à la fois alignés avec la Chine, alignés avec la Russie, alignés avec l'Iran aussi, pourquoi pas, ou la Corée du Nord, vont se saisir de ce qui se passe au travers du monde pour mener leurs opérations. Et l'objectif, c'est bien de voir quel est l'agenda particulier de chacun de ces groupes alignés avec différents intérêts. Certains vont plutôt faire du cyber-espionnage. Je pense à des groupes alignés avec la Chine qui, à un moment, ont ciblé le maritime quand... le président Maduro a été exfiltré par les USA. On peut supposer qu'il voulait savoir quelle était la continuité de leurs activités avec ce territoire. On voit aussi à quel point on peut avoir de l'influence et puis aussi, peut-être un peu plus proche de nous, du sabotage. Et Ce qui est intéressant là-dedans,
c'est fait,
que...
c'est vraiment mettre en liaison tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les tensions internationales et leur déclinaison cyber.
Exactement. Et alors, je vais vous donner un exemple qui, à mon avis, est assez frappant et il a été partagé par des confrères de Citalide lors d'une journée. C'est le fait que quand il y a une prise de position de la France, notamment sur l'Ukraine, il y a des DDoS qui s'opèrent sur les ressources, on va dire les ressources françaises. On l'a vu, l'attaque la plus marquante, ça a été celle de la Poste, ouais, au moment de la livraison des colis. Bon, de fin d'année, bon, bah voilà, on voit, c'est ça la cyber threat intelligence, c'est l'analyse aussi du contexte où on va voir des éléments, des prises de position géopolitiques ou commerciaux à grande échelle et des réactions cyber qui vont accompagner. Parce que le cyber n'est pas tout seul, c'est un peu comme dans la guerre, il n'y a pas forcément de cyberguerre, il y a des éléments cyber qui sont.
Ouais, qui viennent appuyer des actions et tout ça, Jérôme.
Oui, alors là, c'est clair qu'il y a un enchevêtrement numérique et tension géopolitique internationale qui est évident. Et j'ajouterai un axe, c'est celui aussi de la menace informationnelle. On va rentrer là dans une phase très critique avec les élections présidentielles. Ouais. On a vu que même les municipales étaient touchées. Lors des rencontres d'Uclusif la semaine dernière, le Marc-Antoine Briand, qui dirige l'entité Viginum, qui est la vigie numérique de l'État, a dépeint une situation qui laisse présager qu'il va y avoir beaucoup de choses qui devraient se passer. Eux-mêmes vont sortir un bulletin tous les 15 jours maintenant pour suivre cette tendance.
Oui, ça peut être juste la mise en avant très forte d'un fait divers totalement anodin, mais qui va un peu bouleverser l'opinion.
C'est tout un réseau qui repose sur des faux sites web, des faux comptes de réseaux sociaux, qui usurpent des identités ou qui semblent anodins, et qui vont relayer un narratif qui va soit directement, soit indirectement, servir finalement les puissances étrangères pour faire évoluer le ressenti de la population. Et ça, c'est extrêmement pernicieux et sournois, et c'est extrêmement difficile déjà à détecter. Alors heureusement, on a Viginum aujourd'hui, mais c'est aussi extrêmement difficile à lutter même au quotidien. Quand on parle avec des gens, ils disent « Ah bah, j'ai vu ça, t'as vu, ah bah, si c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, ça circule, tout de suite ça devient une réalité. » Et en fait, ce qu'il faut, c'est être capable de très rapidement casser ce sentiment de réalité.
Là, et là, on a des éditeurs comme vous, ils êtes au joueur pour justement accompagner un peu les entreprises autour de ça. Parce que c'est la difficulté de ces entreprises.
Oui, après, il y a dans les types de... Là, on n'est pas sur...
On n'est pas sur des attaques classiques.
On n'est pas sur de l'attaque classique. Ouais. On va avoir, enfin nous, on va avoir beaucoup moins la main sur ce genre de choses. On va pouvoir empêcher de la prise de ressources, des rebonds, ce genre de choses. Mais ça reste quand même bien particulier. Par contre, j'aime bien faire les liens entre les différents sujets. Ce qui est rappelé par Benoît, c'est que il y a des États qui mettent des ressources pour attaquer. Et que par rapport à nos Dark LLM, pardon, je tiens mon fil conducteur.
Non, mais c'est...
Dark LLM as a service, on va avoir des LLM avec des ressources qui vont être mises par des États.
Ouais. Donc derrière,
ils vont utiliser des vieux moteurs
avec du calcul derrière, du monde de ressources
étatiques qui vont servir à faire des attaques.
Dans les équipes cyber, on voit quand même que ce sujet de la lutte contre la menace informationnelle prend de l'ampleur, non pas pour protéger l'État français, parce que c'est pas la responsabilité de telle ou telle entreprise de le faire, mais aussi parce que l'image d'entreprise française est parfois détournée, utilisée, voire attaquée directement pour nuire à l'image de la France, comme tu le citais, quand il y a des prises de position politique.
Ah bah là, ça va être pour les élections, ça va être ça. Il y aura un candidat, nuire au pays.
Et en fait, là où les équipes cyber, elles peuvent pas tout faire dans ce contexte-là, mais elles travaillent avec les équipes communication pour décrypter la menace, déjà pouvoir alerter, parce qu'elles ont l'habitude d'enquêter sur des faisceaux d'indices numériques, et puis remonter à la source pour pouvoir indiquer potentiellement qui est derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, et nourrir l'entité de communication de l'entreprise qui, elle, va pouvoir avoir une réponse plus éclairée.
Alors, autre sujet, celui des lunettes connectées. Voilà, je trouvais marrant qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous entendu parler des Ray-Ban Essilor Luxottica, enfin des Google, il y a des Google Glass il y a longtemps, des Ray-Ban Essilor Luxottica, des Oakley maintenant, et puis on commence à voir arriver, ça y est, tout le monde s'y met, Meta va sortir sa version, bon, il y avait Snap aussi qui a sa propre version, mais on va voir, voilà, beaucoup de Meta, ils vont sortir leur propre lunette avec un design qui va intégrer l'IA. Et tout ça, ça nous fait autant de failles supplémentaires qu'on n'avait pas. On avait déjà notre mobile, hein, et là maintenant des lunettes.
Oui, complètement. Il ne faut pas penser que ce n'est qu'un risque lié à l'usage personnel et à nos vies privées. Mmh. C'est bien un risque professionnel qui va avoir des impacts sur nos sociétés. C'est souvent une captation continue qu'on pourrait même dire d'invisible, hein, parce qu'il est possible en trafiquant ces objets connectés, eh bien de limiter l'apparition de la lumière rouge qui clignote, qui est censée informer celui qui est en face, qui l'est filmé. Est-ce qu'on l'aura prochainement, peut-être dans le scope de NIS 2 ? En tout cas, en ce qui concerne le RGPD, c'est clair que ça l'est. Et puis, on peut imaginer des employés qui viennent au travail dans des endroits peut-être sensibles. Il n'y a pas besoin d'avoir un endroit sensible, hein, quand on tape son mot de passe, quand on regarde son écran.
La caméra se déclenche.
Quand on a des altercations ou des conversations avec soit des clients, soit des employés, je pense que ça sera aussi un sujet RH. Comment est-ce que je gère les lunettes connectées dans mon entreprise? Et voilà, moi j'ai pris l'avion il y a pas longtemps, et puis ou le train, et le message c'est bienvenue à bord, nous vous remercions de respecter la vie privée de nos agents et des autres passagers en ne les filmant pas sans leur autorisation.
Dans les avions, j'ai remarqué ça. Enfin, ça y est, c'est tout le temps. Ouais.
Donc la question c'est comment les RH vont mettre ça dans leur charte, comment est-ce qu'ils vont gérer ces nouveaux moyens de captation qui peuvent parfois sortir du cadre de l'outillage professionnel. Mmh. On arrive un peu sur... C'est une nouvelle phase du bring your own device, en fait. Hein. On vient travailler avec ces lunettes connectées.
Impact sociétal, impact organisationnel.
C'est de l'IoT plus, avec un impact sociétal, effectivement, qui est colossal, avec un vivre ensemble qui est différent. Ça m'est arrivé récemment... aller voir un prestataire qui travaille avec nous, et il avait ses lunettes connectées, et il commence par dire elles sont pas allumées, il commence par ça, en fait. Ça change vraiment la vie de tous les jours pour ceux qui veulent les porter.
Jérôme,
là il y a les lunettes, et ce qui va déferler c'est les robots humanoïdes.
Oui.
Et en particulier dans le contexte de l'entreprise. Et en fait, on avait l'habitude dans des contextes industriels d'avoir déjà des robots, mais qui étaient très statiques, avec des capacités très limitées. Là, le robot humanoïde, c'est comme les lunettes connectées. Il voit, il enregistre, mais en plus, il se déplace et il bouge.
Oui.
Dans un cadre qui est dirigé par des intelligences artificielles qu'on sait très facilement pouvoir contourner. Donc, en fait, le robot humanoïde, c'est l'espion cyber de demain, quelque part, qui sera justement capable d'ajouter cette dimension de déplacement physique et de risque de sûreté.
D'être au milieu du contexte, sans savoir analyser le contexte, savoir avoir tout ça.
Et on se souvient aussi d'une photo qui a fuité. Ça venait d'un aspirateur robot une personne s'est retrouvée en ligne sur les toilettes, assise sur les toilettes, parce que c'est son robot aspirateur qu'il avait pris en photo pour cartographier la maison. Sauf que l'image remonte dans des outils et dans des procédures où il y a des humains qui valident et qui disent « Tiens, ça c'est quoi ? Aide-moi à entraîner l'IA. » Résultat, ça les a certainement bien fait rire. Et ils ont partagé cette photo au-delà du cercle normalement autorisé.
Voilà, donc attention, on n'arrête pas de le dire, hein, toujours à ces outils connectés. Merci à tous les trois, Pascal Ledigal, DG France de WatchGuard, Benoît Grunewald, expert cyber chez IZ France, et Jérôme Billois, associé cybersécurité chez Wavestone. Merci d'être venu nous délivrer un peu votre expertise sur tous ces sujets. Et encore une fois, hein, on parlait du ransomware logiciel, on est vraiment entré dans une nouvelle ère de des cybermenaces, et il faut vraiment, vraiment, vraiment vous rapprocher de spécialistes quand vous avez des doutes sur la sécurité ou le manque de sécurité de votre entreprise. Merci à tous les trois. On se retrouvera à la rentrée pour en parler de tous ces sujets-là. Je suis sûr qu'il va encore se passer plein de choses cet été. Excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.